à tous les auditeurs de Radio MDM. Dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire », je vous ai expliqué les difficultés que l'on avait pour connaître l'histoire du Marsan. On connaît un peu l'histoire de la Gascogne, je vous en ai donné les grandes lignes. Ceci s'explique parce que les documents dont nous disposons sont quasiment inexistants pour toute la période qui va du 6e siècle à la fin du 10e siècle en ce qui concerne le Marsan, et nous en avons quand même assez peu pour l'histoire de la Gascogne en général. Je vous ai notamment expliqué comment on peut arriver à grignoter quelques petites connaissances supplémentaires grâce à des sources qui ne sont pas toujours très classiques. Et là maintenant, je vais vous expliquer comment, par exemple, l'architecture des petites églises romanes du Marsan peut nous en apprendre quand même beaucoup sur une partie de la vie au 10e-11e siècle. Bien, c'est l'étude de l'architecture des églises qui ont dans la construction de leurs murs ce qu'on appelle un petit appareil, c'est-à-dire des tout petits moellons de pierre qui imitent l'appareil antique. C'est le cas pour de nombreuses églises, comme celle de Pujaut, celle de Saint-Cricq, mais c'est assez logique finalement si elles se sont élevées sur une ancienne villa antique. Mais c'est pareil aussi à Saint-Étienne-du-Frêche, on retrouve même des fragments de tuiles romaines dans l'appareil de l'église, en tout cas de ce qu'il en reste puisqu'elle est en ruine. On le retrouve aussi à Canenx, à Cachin, à Sainte-Foy, même à Saint-Savin-la-Rivière. Il existe également une autre particularité, ce sont les églises qui ont dans la base de leur mur qu'on appelle un appareil en épi ou en arête de poisson. Ce sont des pierres ou des briques parfois qui sont disposées de façon oblique de manière à constituer une forme d'arête de poisson. Alors ça, on le retrouve par exemple à l'église de Bossier sur la commune de Mazerolles. On le retrouve à Saint-Médard de façon très nette et on en a des traces à Bougues, à Saint-Genèse de Saint-Pierre-du-Mont et à Saint-Cricq-Villeneuve. Encore une autre particularité qui a été étudiée donc par Michel Gaborit, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Bordeaux, ce sont les églises qui ont un chevet plat, comme celle de Laquille, celle de Saint-Médard, de Bostens, de Saint-Avit, de Lugo, car elles semblent indiquer l'existence, ou en tout cas la trace d'un culte sans doute beaucoup plus ancien, probablement d'ailleurs comme les églises occidentées, c'est-à-dire les églises qui ne sont pas tournées vers l'Est comme elles l'étaient au cours du Moyen-Âge, ce sont des églises dont le chevet est tourné vers l'ouest. Et on les retrouve notamment à Saint-Aurens, sur la commune de Saint-Perdon, et l'ancienne église de Saint-Jean-d'Oute. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait que dans un culte qui est peut-être d'ailleurs un culte qui est tiré de l'ancienne religion des Visigoths, c'est-à-dire un christianisme arien, l'arianisme, le prêtre faisait face à l'Orient, mais il était également tourné vers les fidèles. Donc forcément, l'Orient devait être situé à l'entrée de l'église et lui-même tournait donc le dos à l'ouest. Alors ça, c'est une possibilité, effectivement. Voilà ce que l'on peut déduire de l'ensemble de ces constructions. Ce sont des églises qui ont dû être construites peut-être fin 10e ou 11e siècle. Avant, on n'en sait rien. Avant, on ne connaît pas du tout les établissements. Aucun établissement antérieur, même au 11e siècle, n'a été conservé en Marsan. Je vous ai présenté un petit panorama des sources qui permettent de connaître l'histoire du Marsan au moins au 10e siècle, disons entre le 6e et le 10e siècle, mais c'est surtout le 10e siècle. Ces sources ne sont vraiment pas très nombreuses, mais l'historien ne peut rien inventer. Il est obligé d'utiliser les matériaux qui sont à sa disposition, et quelquefois, il y a vraiment très peu de matière. Maintenant que nous avons évoqué les grandes lignes de ce que l'on peut connaître pour le Marsan durant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 6e et la fin du 10e siècle, nous allons parler de la vicomté de Marsan, car à la fin du 10e siècle, la vicomté de Marsan arrive sur la scène de la Gascogne, à peu près en même temps que d'autres vicomtés voisines, celle de Dax, la vicomté de Tartas à l'ouest, la vicomté de Béarn au sud, la vicomté de Gabardan et le comté d'Armagnac à l'est. Donc la vicomté de Marsan, à la fin du Xe siècle, c'est une des vicomtés qui apparaissent dans l'ensemble de la Gascogne, à propos de l'origine desquelles finalement nous ne savons rien. Est-ce que ces vicomtes sont les héritiers descendants de princes de comtes de Gascogne qui auraient eu plusieurs enfants et se seraient partagés le territoire? Alors ça, c'est une hypothèse ancienne sur laquelle on n'a absolument aucune preuve. Nous devons donc nous résigner quand les vicomtés apparaissent. Eh bien, nous ne savons pratiquement rien de leurs origines lointaines. Ce que nous savons en revanche, c'est que durant cette période, qui va de la fin du Xe siècle à celle du XIe siècle, le duc de Gascogne, le duc Guillaume Sanche, puis ses deux fils, Bernard Guillaume et Sanche Guillaume, vont reprendre en main la Gascogne et mener, avec l'aide de l'Église, une politique de fondation de monastères, ce qui leur permet d'asseoir effectivement leur contrôle sur l'ensemble de la région. Alors, s'ils ont mener cette politique, c'est que probablement on avait besoin d'un encadrement un petit peu soutenu, car comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, l'évêché d'Aire n'avait pas encore repris connaissance, puisque en fait l'évêché d'Aire donc réapparaît au milieu du XIe siècle. Donc, en l'état actuel de la documentation, on ne peut pas savoir si le duc Guillaume Sanche a volontairement déclenché la naissance des vicomtés en s'appuyant par exemple sur de grands personnages locaux qui lui permettaient de contrôler l'ensemble de la Gascogne, ou bien s'il a été obligé d'accepter, je dirais par la force des choses, la domination de familles puissantes à qui il aurait finalement dévolu le titre de vicomte pour les récompenser de leur fidélité. Eh bien, de tout cela, nous ne savons absolument rien. En revanche, nous allons parler un petit peu maintenant des premiers vicomtes de Marsan. Alors, le premier vicomte de Marsan qui apparaît, c'est en 996 et il s'appelle Loup Aner. Il est accompagné de son fils Guillaume Loup et ils sont témoins de la fondation du monastère de Saint-Pierre de la Reule à côté d'Arzac. Et cette apparition, donc, évidemment, n'est pas solitaire puisque en bas de ce texte de la fondation figure bien d'autres seigneurs et vicomtes de la Gascogne. En fait, sur ces premiers vicomtes du XIe siècle, nous ne savons pas grand-chose. Leurs noms apparaissent en général en bas des actes de fondation de monastères, et il y en a eu plusieurs, effectivement. Bon, ils n'apparaissent pas pour la fondation de l'abbaye de Saint-Sevé, mais ils apparaissent un peu plus tard, lorsque le duc de Gascogne va confirmer les biens de l'abbaye de Saint-Sevé. En revanche, eh bien, ils apparaissent clairement, par exemple, pour la fondation de l'abbaye de Condom, qui se situe au début du XIe siècle, la fondation de l'abbaye de Saint-Pédogère en 1022, et puis d'autres actes qui montrent que les vicomtes de Marsan, comme les autres vicomtes, sont les principaux personnages, donc les principaux personnages que l'on voit, dont on va utiliser le nom comme témoin. Il faut dire qu'à côté du vicomte de Marsan, on va trouver par exemple aussi des grands seigneurs, les comtes de Bigorre, les comtes d'Armagnac, le comte de Fezensac, de Pardiac, et de nombreux autres vicomtes sont généralement présents aux côtés donc du vicomte de Marsan, au bas de nombreux actes. Et c'est absolument tout ce que l'on sait sur ces premiers vicomtes. Alors, quelques mots sur ces noms. D'abord, au Moyen-Âge, les noms de famille apparaissent assez tardivement. Donc, on désigne les notables d'abord. On les désigne par un nom, qui est l'équivalent de notre prénom, suivi du nom du père en général. C'est-à-dire, ça serait par exemple Michel, fils de Guillaume, ou bien Guillaume, fils de Pierre. Alors, en ce qui concerne les vicomtes, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous avons parlé du premier vicomte de Marsan qui s'appelle Loup Aner. Son nom est formé de deux noms. Loup, qui est un nom d'origine latine, lupus, le loup, mais d'origine latine et aussi d'origine donc navarraise. On l'utilise beaucoup, effectivement, dans la péninsule ibérique. Et nous avons vu que, par exemple, il y avait un prince Lube, qu'on a souvent d'ailleurs désigné par Loup, Aner, qui est un prénom, alors lui, typiquement espagnol. Et puis ensuite, on voit apparaître son fils Guillaume Loup. Alors Guillaume, parce que Guillaume, c'est probablement une référence à un personnage très connu, la geste de Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est un personnage qui a beaucoup lutté contre les Sarrasins, notamment à Orange, donc en Provence. Et les chansons de geste ont été popularisées par les troubadours durant donc l'ensemble du Moyen-Âge. Voilà. Donc après, on a par exemple un Raymond, mais ça, Raymond, c'est un nom plus classique. Et puis, il faut attendre le début du XIIe siècle pour avoir des noms comme Pierre. Si ces personnages sont vicomtes de Marsan, c'est qu'ils ont une vicomté. Alors, on ne connaît pas, à cette époque, au XIe siècle, on ne connaît pas l'étendue de la vicomté. On la connaît très bien au XIIIe siècle, parce qu'elle est décrite notamment dans une correspondance entre la vicomtesse de Marsan, Constance, et le roi d'Angleterre. Mais en revanche, pour le XIe siècle, on n'est pas tout à fait sûr. On a quand même pas mal d'éléments allemand. Bon, par exemple, on ne sait pas au sud jusqu'où allait la vicomté. Au XIIIe siècle, elle s'arrête à Aer, Durbachin, Renung et la rivière. On sait que, par exemple, les vicomtes de Marsan sont cités à plusieurs reprises comme témoins pour des actes qui se déroulent en Tursan. Alors, peut-être avaient-ils en tout cas des biens en Tursan. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des biens un peu plus tard, par exemple à La Trille, ou bien même à Urgons. Au nord-ouest, ils sont limités par la seigneurie de la Britte. La seigneurie de la Britte est une seigneurie tout à fait différente, qui s'est étendue sur le nord-ouest du bassin de la Midouze. Alors, quelques mots sur cette seigneurie de la Britte qui, à l'origine, ne devait guère s'étendre plus loin que les actuelles communes de la Britte, Vert et Le Seine, c'est-à-dire un petit ensemble qui était limité à l'ouest par la vicomté de Tartas, à l'est et au sud par la vicomté de Marsan. Il n'avait donc guère de possibilité d'expansion, sinon vers le nord. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Pour la première fois, apparaît un membre de cette famille, un amanieux de la Britte, en relation avec une église, qui est l'église peut-être de Saint-Gor. En tout cas, c'est au milieu du XIe siècle. Et ensuite, des membres de cette famille vont prendre part à la première croisade entre 1096 et 1099. Ensuite, on les retrouve dans la croisade contre les Albigeois en 1209. Ils ont effectivement participé à la guerre de Cent Ans aussi. Mais comme ils se sont rangés aux côtés de la France, ils ont été récompensés. Ce qui fait que leur ascension, l'ascension de cette famille qui va les conduire jusqu'au trône de France, est liée à cette décision de prendre parti du roi de France, puisque le roi Charles V va donner en mariage à un amanieux d'Albret, Marguerite de Bourbon, sa belle-sœur. Mais revenons à notre vicomté de Marsan. Une fois laissée de côté à l'ouest la seigneurie de la Britte, les limites de la vicomté de Marsan doivent suivre les paroisses de Lincoac, Bouriot-Bergons, Régeons, c'est-à-dire la ligne de séparation entre le bassin versant de la Dour et le bassin versant de la Garonne. Donc les territoires qui se trouvent au nord de cette ligne de partage sont les territoires qui dépendent du bassin versant de la Garonne, et ceux-là, donc, n'appartiennent plus à la vicomté de Marsan. Ces territoires du nord de la ligne de partage font partie du Bazadais. À partir de Régeons et plus au sud de Vielle-Soubiran, eh bien, nous arrivons aux limites de la vicomté de Gabardan, dont la vicomté de Marsan est séparée, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Pour terminer cette première partie de l'émission, eh bien, je vous propose un chant du XIIIe siècle, chant de Galice, Hermana Fremosa, chanté par Milagro Otero Pargo du groupe universitaire des Camarades de Compostela.
Miraremos las ondas. Miña hermana Fremosa, trae desde grado a la Miraremos las ondas. A la iglesia te digo, Omar salido verra y mía madre, meu amigo. Miraremos las ondas. A la iglesia te digo, Omar levado, verra y mía madre, meu amado. Miraremos las ondas.
fais une petite pause afin de vous parler du XIIe siècle durant lequel apparaît vraiment dans la lumière le premier vicomte de Marsan, Pierre de Marsan. Donc ce XIIe siècle, en Gascogne et en Marsan, comment se présente-t-il ? D'une façon générale, la société féodale avait commencé à se développer à partir de la fin du Xe siècle au XIe siècle, et au XIIe, on est vraiment dans l'apogée de cette société féodale. Même s'il y a une différence importante entre la féodalité de la Gascogne et même du Midi de la France et celle du Nord de la Loire, qu'on appelle en général la féodalité anglo-normande, plus lourde. La société est organisée différemment en Gascogne, et on va voir d'ailleurs les communautés commencer à jouer un rôle relativement important, petit à petit être dotées de privilèges, ce que n'auront pas forcément les communautés du Nord de la Loire. D'une façon générale, le XIIe siècle, c'est aussi le siècle de l'amour courtois, c'est-à-dire des chants que les troubadours qui vont de château en château vont adresser aux femmes des châtelains, ou tout simplement aux dames de la cour, chants qui nous sont parvenus la plupart du temps, hein, mais pas toujours, malheureusement. Alors, nous avons quelques troubadours célèbres, comme par exemple Bertrand de Ventadour, mais aussi c'est Arnaud Guillaume de Marsan, seigneur de Roquefort, qui est également connu pour avoir écrit de très beaux textes. Nous n'avons pas conservé, malheureusement, d'œuvres chantées de ce troubadour. Par ailleurs, le XIIe siècle, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il va également voir un événement absolument décisif. En 1152, le mariage de la duchesse Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet, qui va devenir roi d'Angleterre 2 ans plus tard, en 1154. Et ce mariage va avoir des répercussions extrêmement importantes, puisque jusqu'à 1453, eh bien, l'ensemble de l'Aquitaine et la Gascogne, donc dedans, vont se trouver sous l'administration du roi-duc. Alors, souvent, on entend parler de l'occupation anglaise. Bon, là, je dis non, parce que nous ne sommes pas dans une armée d'occupation. C'est tout simplement un changement d'administration, puisque désormais les seigneurs gascons vont dépendre de leur souverain, qui est le roi d'Angleterre, et non pas du roi de France. Alors, il y a une différence majeure. Effectivement, le roi d'Angleterre va installer une administration, mais c'est une administration qui est composée essentiellement d'un sénéchal qui siège à Bordeaux, et ensuite de différents prévôts qui vont administrer les principales régions de Gascogne. Pas le Marsan. La vicomté de Marsan, qui est administrée par ces vicomtes, rend hommage au roi d'Angleterre, mais il n'y a pas de prévôt en vicomté de Marsan. Donc, on a au moins cette indépendance relative qui a permis effectivement aux vicomtes d'administrer eux-mêmes leur vicomté. Ce XIIe siècle connaît donc des changements économiques qui sont assez importants, puisque la formation progressive du paysage que nous connaissons aujourd'hui s'effectue pendant l'ensemble de ce siècle, et elle se poursuit ensuite au XIIIe et au XIVe siècle. L'essentiel des cadres est mis en place entre le XIe et la fin du XIIe siècle. Par exemple, on va voir s'élever au XIe siècle les premiers châteaux sur Motte. Les mottes, ce sont des tertres, souvent d'une dizaine de mètres de hauteur, qui étaient entourés de fossés et d'une palissade, qui étaient également entourés d'une grande enceinte qu'on appelle la basse-cour, tout simplement parce qu'elle était au pied, c'était une cour qui était au pied de la motte. La résidence seigneuriale était installée soit dans la basse-cour, soit au sommet de la motte. Mais il y avait également un certain nombre de mottes au-dessus desquelles on mettait une tour de guet, tout simplement parce que la résidence du seigneur était plutôt installée dans la basse-cour. Donc là, nous avons un changement dans le type de résidence seigneuriale. On peut dire que les châteaux vraiment se développent à partir de la fin du XIe siècle, mais ça va durer jusqu'au XIVe siècle. Et nous avons de très nombreuses mottes en Marsan. Alors non seulement sur l'ensemble du Marsan, mais aussi sur l'ensemble du département, l'ensemble de l'Aquitaine, on va en trouver partout en France, on va en trouver même dans des pays voisins, parce que c'est véritablement une construction symbolique, c'est-à-dire que la motte, par son élévation, elle symbolise l'autorité supérieure du seigneur. Et cela, ça va durer jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la Révolution, on va trouver en effet dans les textes d'aveu ou de dénombrement, c'est-à-dire les textes dans lesquels les tenanciers ou les vassaux déclarent rendre hommage en quelque sorte pour leur terre à leur seigneur, eh bien la plupart du temps, jusqu'à la Révolution, on va rendre hommage et on va prêter serment souvent sur la motte. La motte n'est plus habitée à partir du XVe siècle parce que, évidemment, les châtelains trouvent que ce n'est pas très confortable et ils vont se faire construire des demeures en pierre. Mais en revanche, la motte demeure par sa puissance symbolique. En Marsan, nous en avons pratiquement une cinquantaine. Alors, je vais citer la motte avec la grande basse-cour d'Artassinx. Il y en a à Castandé, à Laminsan, dans la commune de Bordère et Laminsan. À Renung, il y en a une à l'entrée du village. À Geloux, à Cézeron, sur la commune du Chac, sur Luc Bardès et Bargues, Caninx, Canaxéré ou Vielle-Soubiran, Sarbazan, Mayer. Donc vous voyez que le nombre de communes dans lesquelles on trouve aujourd'hui des mottes est quand même encore assez important. J'aimerais consacrer un moment de cette émission à vous parler du vicomte Pierre de Marsan, qui est un personnage qui est tombé dans l'oubli. Or, il a joué un rôle important dans la Gascogne du XIIe siècle, que ce soit comme vicomte de Marsan ou comme comte de Bigorre. On lui doit notamment la fondation de Mont-de-Marsan, la fondation de l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle à Duhors, et en Bigorre, il a par exemple contribué aussi au développement de Vic en Bigorre et à l'abbaye de l'Escaladieu. Il est bien dommage qu'à Mont-de-Marsan, seule une toute petite rue d'environ 30 mètres de long porte son nom, et encore un nom déformé, c'est-à-dire la rue Laubanère. Je vais vous expliquer quelle est l'œuvre de Pierre de Marsan, et pour commencer, je vais modifier l'appellation qui l'a souvent accompagnée, à savoir celle de Pierre de Laubanère. Laubanère, en fait, c'est la contraction du nom de son père, Louhanère. Cela veut dire en réalité Pierre, fils de Louhanère. Mais ce n'est pas un nom de famille. En fait, on doit l'appeler Pierre de Marsan. Voyons un petit peu d'abord dans quel contexte il est né. Eh bien, il est né dans une Aquitaine qui est désormais réunie sous l'autorité d'un seul duc depuis 1062. Et c'est donc dans cette grande Aquitaine que va venir au monde le futur vicomte de Marsan, Pierre. Alors peut-être est-il né vers 1108 ou peut-être un peu avant, 1105. Bien là encore, nous ne connaissons pas sa date de naissance. Alors par contre, nous connaissons la date de son décès. Nous ne connaissons absolument rien de ses jeunes années. On connaît le nom de sa mère, Garcy. Garcy est un nom gascon, mais qui est largement utilisé, que ce soit au nord ou au sud des Pyrénées. Donc en Espagne, on l'utilise également. On ignore aussi la date exacte de son mariage avec Béatrix de Bigorre, de même que l'année de son accession à la vicomté. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'avant 1130, il a épousé Béatrix de Bigorre, qui est la fille du comte Centule II de Bigorre, et lui-même, ce comte, est le frère du vicomte de Béarn, Gaston IV le Croisé, qui sont tous deux extrêmement liés au roi d'Aragon, Alphonse le Batailleur, et d'ailleurs une charte de ce roi d'Aragon du 26 octobre 1130 qualifie Pierre de Marsan de comte de Bigorre et de seigneur de Saragosse, ce qui veut dire que à cette date, il a déjà épousé Béatrix. Pierre de Marsan, à travers les actes que nous connaissons de lui, en tout cas, car nous ne les connaissons pas tous malheureusement, à travers ces actes, on se rend compte qu'il est vraiment conforme au code de ce qu'est un bon chevalier et un vrai seigneur au cours du XIIe siècle. On peut vraiment dire que Pierre de Marsan, c'est le prototype des grands seigneurs et des chevaliers du XIIe siècle. Et il a toujours été intransigeant sur le respect de cette autorité par ses vassaux. Par contre, il a toujours protégé aussi ses populations et permis le développement de celles-ci au sein des communautés. Nous allons le voir par quelques exemples. Et c'est aussi un chrétien qui n'a pas hésité à faire des fondations très importantes et qui a protégé l'Église. Alors, nous avons quelques actes qui permettent de mieux le connaître. Lorsqu'il devient vicomte de Marsan, d'abord, il hérite d'un territoire qui est probablement déjà celui du XIIIe siècle, à savoir un territoire d'environ 130 000 hectares. Et en plus, quand il va épouser Béatrix, il devient comte de Bigorre, et il va donc pouvoir administrer un territoire qui est très vaste, qui s'étire quand même sur le Haut-Adour. Ces deux ensembles, que sont la vicomté de Marsan et le comté de Bigorre, sont séparés néanmoins par la vicomté de Béarn, le Tursan et le sud du comté d'Armagnac. Pierre de Marsan, en tant que comte ou vicomte, exerce plusieurs fonctions au XIIe siècle. D'abord, il tient une cour dans laquelle vivent ses proches, sa famille, son épouse, ses deux enfants. Il a un fils, Centule II, qui succédera à son père comme vicomte de Marsan, mais également comme comte de Bigorre et seigneur d'un quartier de Saragosse. Et il a également une fille, Rubéa, c'est-à-dire rouge ou bien encore rose blanche, Rose de Marsan, qui épousera vers 1150 le comte d'Astarac Bohémond. En tant que comte ou que vicomte, il héberge donc ses hôtes, mais il doit aussi rémunérer ses vassaux. Et à ce titre, il distribue des fiefs, c'est-à-dire des parties de terre en rétribution des services que lui rendent ces derniers. Ses vassaux peuvent être aussi bien des ecclésiastiques que des laïcs. Ensuite, il rend la justice. Il rend la justice et s'entoure de conseillers qui sont en général ses vassaux. Ensuite, eh bien, une autre fonction de ce seigneur, ou de ces seigneurs de toute façon à cette époque, une autre fonction, c'est de maintenir la paix d'une façon générale. Alors je vous ai dit que c'est un seigneur qu'on connaît essentiellement par trois actes principaux en Marsan. Il y a d'abord la fondation de Mont-de-Marsan entre 1133 et 1141, qui est devenu quand même le chef-lieu de notre département. Mais ça, je vous en reparlerai plus en détail dans une autre émission. Ensuite, il est connu par la fondation de l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle, qui est une abbaye prémontrée. Alors, sur la paroisse de Duhors. Cette grande abbaye sera donc à l'origine de la création de la Bastide de Duhors. Enfin, Bastide à partir quand même d'un noyau préexistant, bien sûr, mais on retrouve encore un petit peu le plan de la Bastide quand on se trouve au village de Duhors, même si cette Bastide n'a pas tellement réussi. Mais surtout au début du XIVe siècle, la création de la Bastide de Decazères est due donc conjointement à une vicomtesse de Marsan et à l'abbaye de la Sauve-Majeure. Et c'est ainsi que l'abbaye de la Sauve-Majeure va donc mettre en valeur, avec ses tenanciers, qui sont des paysans, elle va mettre en valeur l'ensemble de la vallée de la Dourre. Le nécrologe de l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle qui nous est parvenu indique la présence de Pierre de Marsan, vicomte de Marsan, ainsi que de son fils Santul, comte de Bigorre. Et dans ce livre, il est surnommé fondateur de l'église et son décès est acté le 30 août 1163. Cela suggère bien quand même qu'il était le fondateur de cette église. Par ailleurs, le vicomte de Marsan est connu également par l'affaire de Bougues. En 1116, le duc d'Aquitaine Guillaume IX avait donné à l'abbaye de la Sauve-Majeure l'église de Bougues et les biens qu'il y possédait. Il avait également conféré à cette église le statut de droit d'asile, c'est-à-dire de sauveté, dans laquelle on pouvait se réfugier si l'on était poursuivi par un seigneur ou par tout simplement des malfrats. Donc ces limites de la sauveté étaient symbolisées, matérialisées par des croix. Or, l'abbaye de la Sauve-Majeure n'a pas pu rentrer en possession de ses dons pendant 20 ans, car les seigneurs du coin, les seigneurs de Bougues, avaient refusé de rendre les clés à l'abbaye, ainsi que de lui remettre les terres. Ce qui fait que le duc d'Aquitaine a finalement décidé en 1135 de faire intervenir le vicomte de Marsan. Et il s'adresse à Pierre de Marsan, et lui demande de marcher sur Bougues avec ses vassaux. C'est ce que fait effectivement le vicomte Pierre. Il est accompagné d'un certain nombre de grands seigneurs et on peut donc imaginer son arrivée entouré de ses seigneurs, tous à cheval, en armure, donc des gens qui sont imposants. Et très vite, les seigneurs locaux se soumettent et lui rendent donc les clés afin qu'il puisse en faire don à l'abbaye de la Sauve-Majeure qui va ainsi entrer dans ses possessions. Alors on voit par l'ensemble de ses actes qu'il a été effectivement un seigneur tout à fait conforme à ce que l'on attend des seigneurs, en tout cas au XIIe siècle. Voici donc arrivée la fin de cette émission qui est consacrée au Moyen-Âge central, en Marsan. Je vous propose une chanson qui s'appelle Le Château. C'est une chanson assez courte, car j'ai beaucoup parlé. Cette chanson, Le Château, est interprétée par Pascal Bicrel.
Dans la brume légère apparaît un château. Ses grands murs de pierre sont entourés d'eau. Plus haut de sa tour au créneau, au loin on entend la guerre. Dans la brume légère apparaît.
La prochaine fois, je vous parlerai des chemins de pèlerinage et en particulier du pèlerinage de Sainte-Quitterie d'Aire. Ce pèlerinage fut très important non seulement pour les Landais, mais aussi pour bien d'autres personnes qui venaient de loin. Je vous parlerai également de la route de Vézelay, passée par Mont-de-Marsan et qui a un peu façonné le paysage que vous connaissez. À Dichatz.